Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa, les Allemands envahissent l'Union soviétique. L'attaque nazie contre l'Union soviétique, malgré le pacte conclu en août 1939, est une surprise totale, un véritable choc pour Joseph Staline. Pourtant, les preuves évidentes des intentions hitlériennes ne manquent pas. Le célèbre espion Richard Sorg, officiellement correspondant de plusieurs journaux allemands, en réalité agent soviétique, a transmis des messages très précis au Kremlin. Le dimanche 22 juin 1941, l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou, le comte Friedrich Werner von der Schulenburg, reçoit à 3h du matin une dépêche en provenance de Berlin. Elle commence par la mention très urgent, secret d'État, à remettre à l'ambassadeur en main propre. Elle se poursuit ainsi. Au reçu du présent télégramme, procédez à la destruction des documents du chiffre. Les installations radio sont à mettre hors d'usage. Veillez immédiatement à informer Herr Molotov que vous avez une communication urgente à lui transmettre, qu'en conséquence, vous seriez heureux de le voir sur le champ. À 5h30, Werner von der Schulenburg et Gustav Hilger, second secrétaire de la représentation allemande, pénètrent dans le bureau de Vyacheslav Molotov au Kremlin. Les traits tirés, visiblement fatigué et maussade, le ministre soviétique des Affaires étrangères les invite à prendre place à une longue table recouverte d'un tapis vert. L'ambassadeur d'Allemagne tire de sa poche le texte du message transmis par Berlin et se met à le lire. En ce moment même, le ministre allemand des Affaires étrangères est en train de remettre à l'ambassadeur soviétique à Berlin un mémorandum. Incapable de se contenir, Molotov l'interrompt. Depuis 3 heures, nous subissons des bombardements massifs. L'ambassadeur allemand lève la tête, puis d'un ton monocorde, il poursuit sa lecture. Au bout d'une dizaine de minutes, il arrive à la conclusion. De ce fait, le gouvernement soviétique a rompu les traités existants et s'apprête à frapper l'Allemagne dans le dos, alors que celle-ci se trouve engagée dans une lutte à mort. En conséquence, le Führer a donné l'ordre aux forces armées allemandes de s'opposer à cette menace par tous les moyens dont elles disposent. L'espace de quelques instants, le silence est pesant. Molotov semble faire un violent effort pour conserver son impassibilité proverbiale. Cette communication est-elle censée constituer une déclaration de guerre, demande-t-il enfin. L'ambassadeur allemand hausse les épaules d'un geste d'impuissance. Alors le chef de la diplomatie soviétique donne libre cours à son indignation. Pour toute réponse, l'ambassadeur d'Allemagne exprime l'espoir que, conformément à la loi internationale, le personnel de l'ambassade soit autorisé à quitter le territoire soviétique. D'un ton glacial, Molotov réplique que les Allemands seront traités exactement comme les membres de la représentation soviétique à Berlin. Schulenburg et Hilger se lèvent alors, échangent une poignée de main avec Molotov et sortent. À l'ambassade soviétique de Berlin, le téléphone sonne à 3h du matin le dimanche 22 juin 1941. Le conseiller Valentin Beretsov décroche. Une voix inconnue annonce que son Excellence Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères allemand, désire voir immédiatement l'ambassadeur. Arrivé à la Wilhelmstrasse, Beretsov et Vladimir Dakonozov montrent le grand escalier puis s'engagent dans le couloir conduisant au bureau ministériel. À l'extrémité opposée de la vaste pièce, von Ribbentrop, en uniforme gris vert, est assis derrière une grande table. Près de la porte se tiennent plusieurs dignitaires nazis parfaitement immobiles. Le chef de la diplomatie du Troisième Reich se lève, incline la tête et sans un mot tend la main. Puis d'un geste bref, il invite les deux diplomates soviétiques à s'asseoir à un guéridon. Berezkov note que Ribbentrop a le visage bouffi, le teint blême, les yeux injectés de sang. Dekhanozov est porteur du texte des dernières instructions de Moscou. Mais Ribbentrop ne veut pas en entendre parler. Le gouvernement allemand, affirme-t-il, a appris que les Soviétiques concentrent des troupes le long de la frontière allemande. Il remet à Dekhanozov un mémorandum énumérant en détail les griefs nazis. Le gouvernement soviétique, déclare-t-il ensuite, s'apprête à poignarder l'Allemagne au moment où elle est engagée dans un combat terrible contre les anglo-saxons. Ne pouvant tolérer pareille menace, le Führer ordonne les contre-mesures militaires qui s'imposent. Les Soviétiques se trouvent dans un complet état d'impréparation, ni à l'état-major, ni dans le haut commandement, il n'est question de prendre fût-ce les précautions les plus élémentaires, aucun plan n'existe. Quant aux hommes qui composent l'entourage de Staline, ils sont tellement dominés par lui que la crise ayant éclaté, ils sont, pour reprendre les propos de l'amiral Nikolai Kuznetsov, incapables de saisir les leviers de commande, n'étant pas habitués à agir par eux-mêmes. Ils savaient uniquement exécuter les volontés de Staline, qui les écrasait de sa puissante personnalité. Tout le drame était là. L'autorité de Staline est telle que jusqu'au début du mois de juin 1941, c'est-à-dire environ 2 semaines avant l'offensive nazie, personne ne songe à la contester. C'est seulement à partir de ce moment-là que quelques rares officiers commencent prudemment, à mots couverts, à manifester leur inquiétude. C'est déjà trop tard. D'autant que la plupart des généraux s'obstinent dans un optimisme béat que sous-tend une logique redoutable, puisque Moscou ne nous ordonne pas de nous préparer à la guerre, c'est qu'elle n'aura pas lieu. Il en est ainsi jusqu'au bout. Même à l'ultime minute, Staline tente encore d'éviter le conflit en interdisant d'ouvrir le feu sur les avions allemands, de faire mouvement vers la frontière, d'esquisser le moindre geste susceptible de provoquer une réaction allemande. Il s'accroche à cet espoir avec un tel entêtement que le matin du 22 juin, alors que l'invasion a déjà commencé, Moscou réitère l'ordre de ne surtout pas riposter. Pour Staline, l'attaque nazie est une surprise totale, un véritable choc. Évoquant son comportement dans la journée cruciale du 22 juin, Nikita Khrouchtchev décrit un homme littéralement effondré, convaincu que tout était fini. Pendant un laps de temps prolongé, il ne prend aucune part à la direction des opérations militaires, se ressaisissant seulement lorsque le Politburo le persuade que dans une crise aussi grave, il n'a pas le droit de se dérober. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire, un jour 3 livres préparés par Emmanuel, mais avant cela une pause musicale avec Léo Ferré. Nous écoutons un titre de 1971, peut-être le plus beau de sa composition Avec le temps.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit avec le temps. Riche farfou dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre tranquille on croyait pour un rime, pour un rien, à l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qu'il en eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on aime.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. C'est la chronique littéraire, un jour trois livres, qui a été préparée par Emmanuel. Nous commençons par le livre de Jean-Paul Delfino, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson, Guyane au pluriel. À la suite de la Commune, Clara, 15 ans, est condamnée comme pétroleuse à 8 ans de bagne, direction la Guyane. Au même moment, Manet, esclave, rentre de la guerre qui a opposé le Brésil au Paraguay et s'enfuit vers la Guyane voisine, terre de liberté. Et Alphonse de Saint-Cucien, rejeton d'une famille de parvenus, multipliant les frasques, accumule les dettes de jeu et se voit contraint de quitter la France. Voici donc trois destins avec trois Guyanes. Ce roman est un tableau sans concession de la politique coloniale française en Guyane et la description palpitante de l'histoire de ce bout de France et de son puissant et tumultueux fleuve, le Maroni. Guyane, de Jean-Paul Delfino, s'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Les disparus de Blackmore, d'Henri Lovenbruck, aux éditions Ixo. Nous sommes en octobre 1925, à Blackmore, une île au large de Guernesey. Des meurtres et des disparitions sèment la terreur. La police piétinant, la très cartésienne Lorraine Chapelle, diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort. Elle devra faire équipe avec Edward Pierce, un Britannique spécialisé en sciences occultes, un duo improbable, mais un thriller palpitant. Les disparus de Blackmore d'Henry Lovenbrook, c'est aux éditions XO. Et cette chronique se termine par Le défi de Jérusalem d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. Après son expérience mystique dans le désert du Hoggar, retracée dans la nuit de feu, le voici retourné aux sources des religions du livre. Il s'agit du récit du voyage en Terre Sainte effectué par Éric Emmanuel Schmitt. Jérusalem, Bethléem, Nazareth, Césarée, des lieux intenses. Il nous décrit son expérience spirituelle, ses réflexions, ses sensations, sa surprise finale à Jérusalem, la rencontre avec ce qu'il nomme l'incompréhensible, Jérusalem, où tout a commencé et où rien n'est fini. Cette Jérusalem l'a littéralement traversée. C'est un beau témoignage de la profondeur mystique éprouvée par Éric Emmanuel Schmitt. Le défi de Jérusalem d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est aux éditions Albin Michel et je vous le recommande tout particulièrement. Voilà pour cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisé. C'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Léo Ferré, un titre de 1969 dans l'album L'été 68, c'est extra.
Une robe de cuir comme un fuseau aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les body blues qui chantent la nuit dans un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jase dans le noir et ce qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui prie. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. De cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra.